Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du 7 février 2023. Je vous donne les titres d'actualité. Nous allons commencer par un petit débat, donc de 8 questions posées à Sœur Sophia Amring sur la grande question « Croire en Dieu ou en une énergie ?» Ce débat figure dans l'Invisible numéro 76. Ensuite, je vous lirai le discours de l'acteur Jonathan Roumi, donc vous savez, qui joue le rôle de Jésus dans la série américaine The Chosen, un discours qu'il a prononcé lors de la dernière marche pour la vie à Washington. En portrait, aujourd'hui, je vais vous présenter Bertia Antoniazzi, morte à 20 ans en 1964 d'une endocardite rhumatismale. Sa vocation de malade a été de prier et consoler. Le témoignage est en ligne sur Aletheia. Et en culture chrétienne, je vous présenterai le livre de Florent Vallière, Ma vie aux deux extrêmes, le combat et l'espérance face à la bipolarité aux éditions MAM. Nous commençons cette revue de presse avec une grande question. Croire en Dieu ou en une énergie. Tous les hommes et les femmes, on sait bien, sont en recherche spirituelle, dans une religion ou une spiritualité plus large. Sœur Sophia Amring a cherché le divin jusqu'en Inde et dans des expériences extrêmes avant de devenir religieuse. Voici donc 8 questions qui lui ont été posées sur ce sujet, donc dans l'Invisible numéro 76. Première question. La question du divin dépasse toutes les religions. Elles sont des portes d'entrée, mais il faut monter plus haut spirituellement. Alors, Sœur Sophie nous répond. Réfléchissons pour voir si ce raisonnement tient. Et commençons par le mot « religion » qui vient de « relier », c'est-à-dire « connecter ». Le sens même de la religion est donc de relier l'homme à quelque chose, ou plutôt à quelqu'un, de plus grand que lui. C'est exactement ce que vous cherchez. Alors, il ne pourra pas être question d'abolir ou de dépasser la religion, mais de discerner quelle religion vous relie au Dieu vivant, un Dieu qui libère vraiment. Mais je comprends. Vous pensez plutôt que ce sont les formes extérieures des religions, comme le culte, les dogmes, les systèmes moraux, les hiérarchies, assez différentes les unes des autres, qui empêchent d'accéder à Dieu, car souvent source de conflits, de divisions, et même de violence. C'est cela que vous aimeriez dépasser, mais dépasser vers quoi exactement? Alors nous en arrivons à la deuxième question. J'aimerais une relation plus directe avec le divin, sans tous ces dogmes et autres rites. Eh bien, Sœur Sophie nous dit, comment s'adresser à la divinité dans une relation intime et personnelle si on ne se permet même pas de donner un nom propre à Dieu? Et sans célébration, sans mots pour communiquer le contenu de sa foi à d'autres, on arrive à un phénomène totalement désincarné. Chacun restant seul dans son univers intérieur amorphe, avec un Dieu innommable. Le fruit d'un tel dépassement sera l'isolement. Alors que la religion, par définition, ne relie pas seulement à Dieu, mais vous relie aussi au prochain, à des frères et à des sœurs. Troisième question, il faudrait au moins dépasser les questions morales de toutes les religions qui empêchent de vivre. La sœur nous dit « S'il faut dépasser les systèmes moraux des religions, cela signifie que toutes les valeurs se valent. Qui seriez-vous alors pour dire que tel ou tel acte est mauvais? Chacun fait ce qu'il sent être bien pour lui. Ces valeurs transcendantes, valeurs religieuses j'entends, ce sera la loi du plus fort qui s'imposera. Le retour à la barbarie. Et ne pensez pas que vous puissiez inventer quelques rites et célébrations plus universelles et adaptées au-delà de ceux qui existent déjà. Vous ne feriez qu'inventer encore une nouvelle religion. Justement, ce que vous voulez dépasser. Alors, quatrième question. Même si on garde l'idée d'une religion, je ne veux en choisir aucune, puisqu'aucune n'est plus vraie que l'autre. Je préfère prendre dans chacune ce qu'il y a de bien. Eh bien, Sœur Sophie nous dit, si toutes les religions sont aussi vraies les unes que les autres, cela veut dire que Dieu existe et n'existe pas en même temps. Car les bouddhistes ne croient pas en l'existence de Dieu. Cela veut dire aussi qu'il y a un seul Dieu unique et plusieurs dieux. Mais c'est totalement incohérent. Ça conduit à l'abdication de la raison. Et ce sera le prix à payer si on admet que toutes les religions se valent. Dieu vous a donné non seulement un cœur qui le désire, mais aussi une intelligence pour le chercher, et un corps pour le célébrer, le chanter, pour l'accueillir comme hôte intime. Cinquième question. Il suffit de remplacer le mot « Dieu » par le mot « divin » ou « énergie » ou « amour universel », c'est la même chose. Dieu est tout, nous sommes une parcelle, une étincelle du divin. Eh bien, Sœur Sophie nous répond « Pour aimer, il faut un nom, un visage, un cœur. Comment voulez-vous aimer une énergie ou un grand tout ? Et surtout, comment être aimé par une énergie impersonnelle ? Moi, je ne veux pas me fondre en quelque chose de plus grand que moi, c'est-à-dire me dissoudre et disparaître, mais m'unir à celui que j'aime. L'union de l'amour ne dissout pas les personnes, bien au contraire. En aimant et en se laissant aimer, on devient plus soi-même, plus une personnalité unique. C'est le direct opposé de la vision orientale du salut où l'âme humaine se fondra dans l'âme du monde. La personne est considérée comme une illusion. Et c'est très difficile d'aimer une illusion. Mais c'est l'amour que vous cherchez en fin de compte. Sixième question. Pour accéder au divin, je pratique le yoga. Il aide à diviniser l'humanité. À force de pratiquer les exercices, eh ben on se quitte soi-même pour appartenir au divin. Que nous dit Sœur Sophie ? Elle nous dit « Savez-vous que le mot yoga vient de la même racine que joug en français ou yoke en anglais ? Le joug est un outil qui sert à unifier les forces d'un homme pour porter ou les forces des animaux pour labourer un champ. Le yoga oriental est un ensemble de techniques qui visent à unir l'homme avec le divin. Avez-vous remarqué que dans l'évangile, Jésus emploie le même mot « Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à l'école, à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez le soulagement pour vos âmes, car mon joug est facile et mon fardeau léger. Pour la spiritualité orientale, l'âme est une parcelle de la divinité, et le yoga vise à atteindre la conscience cosmique de cette réalité. Bref, nous ne sommes rien en nous-mêmes, mais déjà un avec une énergie indifférenciée et impersonnelle. Nous sommes le divin, en fait. Il s'agit seulement d'atteindre la conscience de cette réalité cosmique. Or, avec Jésus, c'est tout autre chose. C'est s'attacher à une personne aimée, qui est Dieu et qui m'aime personnellement. Puisqu'il est si infiniment bon, si aimant, si sage, oui, on veut bien s'atteler à lui. Lui qui n'est pas une énergie impersonnelle, mais un visage adorable et un cœur ouvert. Je vous conseille plutôt Jésus que le yoga. Septième question. Je peux comprendre qu'on croit en Dieu, mais que Dieu puisse m'aimer personnellement. Ben, je n'y crois pas et je ne le sens pas. Comment le sentir ? Sœur Sophie nous dit « Il arrive à tous, à un moment ou un autre, qu'on ait l'impression que Dieu est absent, distant, voire indifférent et même hostile. Vous avez peut-être connu une grande déception dans votre vie, de l'abandon, de la trahison, du rejet ou des échecs douloureux. Vous avez crié et appelé à l'aide et Dieu ne semble pas avoir répondu. On frappe et c'est le silence. » Souvent, nous sommes tellement bloqués sur un problème, une souffrance ou un désir, que la seule chose qui compte, c'est que Dieu intervienne selon nos idées à nous. Or, Dieu n'est pas un pompier de sauvetage prêt à intervenir seulement au moment de la grande catastrophe, pour qu'ensuite nous continuions notre train de vie comme si nous étions les maîtres de nos existences. Non, Dieu a un désir autrement plus profond et plus merveilleux pour vous. Il veut être votre compagnon de vie pour de bon, pour toujours. Au lieu de l'obliger à se plier à vos idées, pourquoi ne pas vous plier, vous, à ses idées à lui ? Au lieu d'essayer de forcer la porte de Dieu, pourquoi ne pas l'ouvrir dans l'autre sens ? Voulez-vous vous atteler à lui ? Tester son joug ? Jésus ne force jamais. Il attend. Patiemment. Et dernière question. Je ne vois pas vraiment ce que cela pourra m'apporter. Et pour terminer, la sœur nous dit « Tout change quand nous décidons de vouloir suivre. » En d'autres mots, quand nous commençons à obéir. Alors Dieu ne sera plus une force diffuse et distante, mais un être personnel est très proche. Faites ce saut-là et nous en reparlerons. C'était 8 questions posées à Sœur Sophia Imring, donc sur le sujet « Croire en Dieu ou en une énergie » que vous pourrez donc retrouver dans l'invisible numéro 76. L'acteur Jonathan Roumi, connu dans le monde entier pour son rôle de Jésus dans la série The Chosen, a prononcé un discours remarqué et très engagé lors de la marche pour la vie qui s'est tenue le 20 janvier à Washington. Je vais donc vous lire les extraits les plus percutants de ce discours. Vous pourrez le retrouver sur le blog de Famille Chrétienne. Vous avez choisi de vous rendre aujourd'hui dans la capitale de notre nation, non seulement pour pleurer les 75 millions d'enfants perdus par l'avortement au cours des 50 dernières années, mais aussi pour défendre ceux qui doivent encore naître sur le chemin de leur propre naissance. Dieu est réel. Comment puis-je le savoir? Mettons les choses au clair. Je ne suis pas lui. Je ne suis pas le vrai Jésus, mais seulement le Jésus de la télé de la série de Jim Caviezel. Dieu est réel et il est complètement amoureux de chacun d'entre vous. Comment puis-je savoir que c'est le cas? Simplement parce que ma foi est la lentille à travers laquelle je vois l'ensemble de ma réalité? Non. Est-ce à cause des miracles que j'ai vécus dans ma propre vie et vus de mes propres yeux et pour lesquels ma foi a été le catalyseur? Encore une fois, non. Dieu est réel et il est complètement amoureux de vous parce que vous êtes tous ici, aujourd'hui. L'histoire a été écrite. La vie a triomphé d'une manière extraordinaire. Aujourd'hui, vous combattez pour la cause la plus noble et la plus méritoire qui soit. Celle de permettre aux enfants à naître d'avoir le droit de venir au monde et de vaincre les forces terrestres qui souhaitent détruire l'évidence même de leur existence. Vous avez choisi de vous rendre aujourd'hui dans la capitale de notre nation. La loi du mouvement de Newton dit que toute action a une réaction égale et opposée. Cela s'applique également au monde spirituel. Ayant joué le rôle du Fils de Dieu au cours des 3 dernières saisons de la série The Chosen, dont vous avez peut-être entendu parler, j'ai passé beaucoup de temps dans le domaine spirituel par la prière, la méditation et les sacrements. Laissez-moi vous dire que cela vous change de l'intérieur. Tout comme Dieu est réel, Satan l'est aussi. Et je ne parle pas de la caricature simpliste d'un type avec des cornes et une queue. Je parle du père du mensonge, du grand trompeur, du diabolique calomniateur qui vous pousse à douter alors que vous savez au fond de votre cœur ce qu'il faut faire. Et il n'est pas prêt d'abandonner ce combat. En fait, il redouble d'efforts. Vous savez pourquoi? Son temps est limité. Il lance donc tout ce qu'il a sur le monde et sur nous tous et d'innombrables personnes sont trompées en conséquence. Mais c'est son travail. Il veut votre et ma destruction. Il veut nous faire croire que l'avortement ne nous fait pas de mal individuellement et en tant que société. Alors s'il vous plaît, je vous en supplie, priez pour ceux qui n'ont pas la foi, la force, la clarté d'intention que vous avez. Les gens me demandent « Comment essayez-vous d'imiter Jésus dans votre propre vie lorsque vous le jouez ?» Eh bien, aimez mes ennemis, priez pour ceux qui me persécutent est le premier endroit où je dois commencer. Mais rappelez-vous, nous savons comment l'histoire se termine, Dieu est avec nous jusqu'à la fin des temps. Je veux m'adresser particulièrement à ceux d'entre vous qui s'identifient à la génération Z et même à la génération Alpha. Depuis un certain temps maintenant, nous sommes témoins d'une polarité croissante entre la lumière et l'obscurité. Nous l'avons vu se manifester dans de nombreuses facettes de la culture, mais je voudrais l'aborder comme je le vois en tant qu'artiste dans l'industrie du divertissement. Ces dernières années, on a assisté à une augmentation brutale et inquiétante de la noirceur de l'imagerie utilisée au cinéma, à la télévision et dans la musique. Le paysage est devenu de plus en plus sinistre et dans certains cas démoniaque. Parfois subliminales, souvent ouvertes, les intrigues impliquant l'occulte, la sorcellerie, les démons et même des éléments sataniques sont monnaie courante dans les programmes grand public. Nombre d'entre eux présentent un contenu spirituellement et psychologiquement perturbant. Et avant que vous ne me tombiez dessus, je ne fais pas spécifiquement référence à un certain sorcier à lunettes, bien que certaines personnes puissent ne pas être d'accord, mais je fais référence aux médias sociaux, ce qui est encore plus inquiétant. Et je n'ai pas besoin de citer de noms. Vous le savez quand vous le voyez. Les plus jeunes d'entre nous et les plus vulnérables, ainsi que ceux qui ne sont pas ancrés dans une foi solide en Dieu. Les médias sont devenus un portail vers des comportements et des attitudes néfastes. Les enfants veulent imiter cela, rejeter Dieu, rejeter la lumière, et rejeter finalement tous ces aspects de la communauté qui donne la vie. J'ai observé que Dieu a été subtilement mais radicalement retiré de la culture populaire publique au cours des deux dernières décennies, remplacé par certaines des images et idéologies les plus corrompues. Et tous ceux d'entre nous qui professent une quelconque foi sont qualifiés de fondamentalistes ou condamnés pour leurs croyances avec les assertions de la religiosité rigide d'un pharisien. Cela est totalement contraire à ce que signifie avoir une relation avec Jésus-Christ et suivre ses enseignements. Si seulement le reste du monde prenait réellement le temps d'explorer ce que cela signifie de suivre le cœur de Jésus. Oui, il y a toujours des exceptions individuelles. Malheureusement, mais pour la majorité des croyants, Dieu est amour. Et l'amour véritable donne lieu à la vie, pas à la mort. On dit que nous vivons dans une société post-chrétienne. Je rejette cela. Vous devez le rejeter en ayant un impact sur la culture. Embrassez ce qui est plus grand que vous. Celui qui vous a donné la vie en abondance et celui qui vous a appelé par votre nom. N'ayez pas peur. Mettez en sourdine le bruit de la culture ambiante et embrassez la contre-culture de l'amour du Christ et le message qu'il vous offre. La route est large qui mène à la destruction et beaucoup y entreront. Entrez donc par la porte étroite, car c'est là que se trouve le royaume des cieux. Vous savez, me tenir ici pour vous dire ces choses maintenant n'est ni un choix de carrière évident, ni une décision facile pour moi, parce que je n'ai jamais mis les pieds dans cette arène auparavant, publiquement. Mais finalement, je n'avais pas le choix. Il y a quelques années, j'ai pris l'engagement de suivre les appels de l'Esprit et je m'y tiens. Et c'est pourquoi je suis ici, aujourd'hui, à cette marche pour la vie. Je vous laisse donc, avec quelques réflexions finales. Nous subissons un assaut contre notre sens de la vertu. Nous subissons un affront à la sainteté dont nous sommes tous imprégnés et à laquelle nous sommes appelés. Puis une attaque contre la structure familiale et le caractère sacré du don de la vie. Mais nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est lui-même amour. Nous sommes chargés d'être les porte-drapeaux qui défendent et préservent la dignité de chaque être humain, mais surtout des plus vulnérables. Si nous y sommes appelés, comment pouvez-vous faire la différence ? Premièrement, en priant le rosaire. Saint Padre Pio a dit que la plus grande arme contre le diable que nous ayons est le rosaire. Essayez-le. Voyez par vous-même. Deuxièmement, examinez et exposez les zones de ténèbres dans votre monde, dans votre communauté, dans votre société immédiate qui ont besoin de votre lumière et apportez-la partout où vous allez. Changez la culture en ayant un impact sur la culture. Faites entendre votre voix. Agissez avec vos ressources financières, spirituelles, temporelles. Mon engagement à avoir un impact sur la culture en tant qu'artiste consiste à prier. Je dois continuer à participer à la narration d'histoires, comme celle de mon prochain film, Jesus Revolution, qui met en lumière les luttes et les réussites de la condition humaine. Des histoires qui défendent la dignité humaine et révèlent la vérité de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Jésus a vécu comme l'un de nous et cela nous met en communion avec lui. En honorant la vie que Dieu vous a donnée, en apportant vos dons au monde avec amour et compassion, vous créerez un environnement de sainteté dont les plus impressionnables de notre société s'inspireront. Et vous contribuerez à recadrer les attitudes de la conscience collective de la société. Il s'agit de la ramener avec la préservation et la valeur de la vie, de restaurer le respect de la foi et la véritable tolérance religieuse, et de guérir certaines des blessures de nos chères nations dans le processus, tout en espérant nous planter plus profondément dans la grâce de Dieu. Ce fut un honneur d'être avec vous ici. Merci de m'avoir invité. Soyez bénis. C'était le discours prononcé par l'acteur Jonathan Roumi à Washington lors de la marche pour la vie du 20 janvier. Vous pourrez retrouver ce discours en intégralité sur le blog de Famille Chrétienne. Je vais maintenant vous présenter une jeune fille dont les vertus héroïques ont déjà été reconnues par le pape François le 19 janvier 2023, Bertilla Antoniazzi. Donc morte à 20 ans d'une endocardite rhumatismale, donc en 1964. À l'âge de 8 ans, Bertilla attrape une mauvaise grippe suivie d'une infection intestinale. À peine remise, elle est frappée par de fortes douleurs articulaires puis par des difficultés respiratoires considérables. Le diagnostic tombe impitoyable. Il s'agit d'une endocardite rhumatismale, donc une maladie cardiaque qui lui coupe le souffle et annihile ses forces, la contraignant à rester au lit une grande partie de la journée. Au fur et à mesure des années, les hospitalisations se font de plus en plus fréquentes et prolongées. Mais au lieu de subir sa maladie, Bertilla décide de l'offrir et de l'utiliser dans un carnet datant de sa première hospitalisation en août 1953. Elle note dans ce carnet, minutieusement, jour après jour, à qui elle offre ses souffrances. Son désir d'intercession est orienté principalement vers ses proches, et notamment son petit frère, Egidio, devenu sourd et muet à cause d'un traitement médical. Elle n'a alors que 9 ans. À 13 ans, son désir d'intercession prend déjà une dimension universelle. Le lundi, elle prie pour les âmes du purgatoire. Le mardi, pour les missionnaires et les non-croyants. Le mercredi, pour la conversion des pécheurs mourants. Le jeudi, pour les prêtres. Le vendredi, pour réparer les offenses au cœur de Jésus. Le samedi, pour la conversion des pauvres pécheurs. Et le dimanche, pour la conversion de la Russie. À l'âge de 15 ans, elle rejoint le Centre des volontaires de la souffrance, fondé par le bienheureux Luigi Novarese. Elle trouve alors pleinement le sens et la valeur de son existence, qui aux yeux du monde peut sembler misérable, pitoyable, inutile, mais qui, vécue en union avec le Christ, devient une prière incessante. Les membres de sa famille l'entendent souvent murmurer « Tout pour l'amour de Dieu ». Malade. Une vocation qu'elle embrasse avec tant de fougue qu'elle ne lui laisse que peu de répit. Je n'ai jamais pris la peine de me demander si j'avais vocation à devenir religieuse, car ma vocation est d'être malade et je n'ai pas le temps de penser à autre chose. À l'automne 1963, les médecins donnent finalement leur accord pour qu'elle puisse se rendre à Lourdes. À la grande surprise de Bertilla, son cœur ne lui cause pas de soucis pendant le pèlerinage et se remplit de consolation en priant Notre-Dame et en participant aux différentes célébrations. Le lendemain de son retour, elle écrit à sa sœur « Je te le dis en vérité, chère sœur, je suis heureuse de pouvoir souffrir un peu pour Jésus, pour la conversion des pécheurs, et je suis sûre que Notre-Dame, si bonne, va faire de moi une sainte comme je lui ai demandé au pied de la grotte. » Bertilla est rappelée à Dieu le 22 octobre 1964 à l'hôpital public de Vincennes. 50 ans plus tard, en 2014, dans ce même lieu, l'évêque du lieu, Beniamo Pidiol, ouvre la phase diocésaine du procès sur les vertus héroïques de Bertilla Antoniazzi. De nombreux témoignages affluent, rapportant des grâces singulières attribuées à l'intercession de la jeune fille. Le cas le plus frappant est la guérison de Lorena Vona, une petite fille née prématurément et guérie miraculeusement. C'est la sœur de Bertilla, donc Rita, devenue dans les ordres sœur Pia Luigia, qui avait suggéré aux parents d'invoquer l'intercession de Bertilla. Voici donc la prière pour la canonisation de Bertilla Antoniazzi. Seigneur Jésus, tu as permis à la servante de Dieu, Bertilla Antoniazzi, de vivre le mystère de la souffrance dès l'enfance et de le partager avec toi, transformant son lit d'hôpital en un lieu d'encouragement et d'espérance pour les malades, pour l'équipe médicale et pour les membres de sa famille. Par son intercession, nous prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit. Inspirez dans leur cœur ce même désir de Dieu qui a donné la force à Bertilla, afin que personne ne soit écrasé par le poids de la croix et que la maladie devienne une occasion privilégiée de témoigner de l'amour de Dieu. Accorde-nous selon ta volonté, par l'intercession de Bertilla, la grâce que nous implorons dans l'espoir qu'elle sera bientôt comptée parmi les saintes. Amen. C'était donc le portrait de Bertilla Antonazzi que vous pourrez retrouver sur Aletheia. Nous arrivons à la culture chrétienne où je vais vous présenter très brièvement le livre de Florian Vaillère paru aux éditions MAM intitulé « Ma vie aux deux extrêmes, le combat et l'espérance face à la bipolarité ». À travers un témoignage bouleversant, Florent Vaillère nous invite à plonger au cœur de la bipolarité et à mieux comprendre une pathologie aujourd'hui assez fréquente. Avec un mélange de pudeur et une vraie violence parfois, ce livre offre à la fois une ouverture sur une maladie encore mal connue et un partage sincère sur les difficultés des personnes concernées. Ce livre est également le témoignage d'un chemin de foi à travers la maladie psychique, la dépression et les délires. Donc, l'auteur non seulement nous permet de mieux comprendre la bipolarité, mais surtout de saisir la fragilité et la force des personnes atteintes. La phrase, on va dire, phare de son livre est la suivante. La foi me porte quand je souffre. Elle est une arme redoutable pour continuer à espérer. Ma vie aux deux extrêmes, le combat et l'espérance face à la bipolarité de Florian Vaillère, paru aux éditions MAM.
Chers auditeurs, c'était la revue de presse de Claire. Retrouvez cette revue de presse en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.